vous, téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. C'est très cher. Ouais.
Il est 9h40, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
MTV has become a phenomenon.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça qu'on traite en direct.
Ayem Nour, c'est qui, me demandait-on hier dans les couloirs de France Inter. Ah, Ayem ! Non ! Eh ben si, Ayem. Si vous ne la connaissez pas, demandez à vos ados, demandez-vous surtout ce que vos gamins regardent à la sortie de l'école. 17h25, le Mad Mag, 18h15, Les Anges, nous sommes sur Énergie 12. Il est loin, le Loft, Love Story, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est loin, très loin, la télé-réalité a beaucoup changé, les garçons et les filles qui y participent n'en sortent plus, mieux, ils sont entrés à l'intérieur de la télé, de ces programmes qu'ils regardent depuis tout petit. Bonjour Ayem Nour.
Bonjour.
Vous animez le Mad Mag, l'émission qui raconte la télé-réalité dont vous êtes vous-même issu, on va dire publiquement, parce que sinon vous êtes né d'un papa et d'une maman, tout à fait normalement. Ce que vous incarnez, ce que vous avez vécu, on va parler de votre image et de votre personnage, hashtag Instant M.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Alors un mot pour commencer, un mot d'actualité du cri d'alarme lancé par Reporters sans frontières qui publie ce matin son classement 2017 de la liberté de la presse. La carte du monde est de plus en plus sombre. La situation considérée comme difficile, voire très grave, dans 72 pays sur 180, la Chine, la Russie, l'Inde, presque tout le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Amérique centrale, mais aussi deux tiers des pays d'Afrique. Alerte rouge sur les pays qui étranglent économiquement leurs médias, en plus de les verrouiller idéologiquement, la Pologne, la Russie, la Turquie. Quant aux démocraties, obsédées par la surveillance et le non-secret des sources, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, elle chute dans le tableau. La France remonte cette année à la 39e place. Pas de journalistes assassinés, évidemment, cette année par des terroristes. Mais RSF relève le climat délétère de cette campagne où les journalistes sont conspués par les candidats et par certains militants. Frédéric Schlesinger, bras droit de Mathieu Gallet, directeur des antennes de Radio France, on dit Schles entre nous dans les couloirs, part à la concurrence. Il va devenir le patron du pôle radio du groupe Lagardère et aura ainsi la charge de redresser Europe 1, dont les audiences ont sévèrement chuté ces dernières années. Voilà pour l'actu. Ayem Nour, c'est mon invité. Ayem Nour, est-ce que vous connaissez l'opération Interclasse?
Alors,
vous connaissez?
Très honnêtement,
non.
Non.
Alors, je vous raconte. C'est l'opération que France Inter a montée avec 12 classes de collège et de lycée. Alors, les 4e set du collège Jean Lursa de Sarcelles étaient mes invités dans l'Instant M. Au micro, vous êtes là en ce moment même. Leur prof de français m'avait confié avant l'émission, cette génération ne regarde plus du tout la télé. J'ai posé la question à Samia, on l'écoute.
En premier, je regarde la télé-réalité.
C'est quoi, par exemple,
va me tuer, mais
non, ta mère, elle va pas tuer.
Je regarde Les Anges.
Non, c'est super intéressant de savoir ce que votre génération regarde à la télé. Tu regardes Les Anges?
Je regarde Les Anges.
Je t'ai pris un extrait des Anges.
Je sais qu'on passe une super soirée, que c'est pas le moment, mais voilà, moi, je suis comme ça. Quand je pense un truc et que ça commence un petit peu à monter, je suis obligée de le dire. Je vois pas pourquoi Madame Kim ne ferait pas le ménage.
Télé-réalité à gogo pour les 4e set de Sarcelles avec le Mad Mag à 17h25, puis Les Anges saison 9 sur Énergie 12. Vous êtes la première chaîne de France, les 15-24 ans, donc c'est eux, hein, c'est ces gamins-là, record d'audience hier que vous avez obtenu, Ayem. Alors quand on ne regarde pas la télé-réalité, très sincèrement, on ne comprend rien à votre émission. Ça parle de beaucoup de gens, hein, forcément qu'on ne connaît pas, voilà, qui nous sont inconnus, mais on remarque tout de suite un truc. Ces personnages de télé-réalité, ils n'ont que des prénoms. Vous, vous avez un prénom et vous avez un nom. Vous n'êtes pas Nabila, vous n'êtes pas Loana pour ma génération. Vous êtes Ayem Nour. C'est important?
Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'en sortant de Secret,
Secret Story, qui est donc l'émission de TF1,
exactement,
qui vous a révélé.
Exactement. On m'appelait Ayem, parce que j'étais identifiée comme ça. Et c'est vrai qu'après, par la force des choses, en étant de plus en plus présente dans les médias, à la télé, et en faisant petit à petit mon petit bout de chemin, j'ai eu la chance d'être reconnue par les gens du milieu, en tout cas, et d'en faire mon métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on m'appelle Ayem Nour. Ça fait plus sérieux. C'est bien.
C'est ça, mais, mais vous vous êtes imposé avec ce patronyme parce que Nabila est restée Nabila.
Oui, écoutez, non, sincèrement, ça s'est imposé naturellement.
Ça s'est imposé tout seul. La télé, vous en rêviez manifestement. De quoi vous rêviez exactement, Ayem Nour?
Alors, pour être très honnête, quand j'ai commencé la télé-réalité, il y avait cette espèce... Moi, je sortais d'un contexte et d'un schéma familial un petit peu compliqué. Mm-hmm. Et d'un milieu très modeste. Donc, il y avait cette espèce d'intérêt financier, pour être très honnête, et je ne m'en suis jamais cachée.
Vous vouliez gagner des sous, plutôt oui. que de faire des petits boulots.
J'ai fait des petits boulots. Ouais. J'ai fait des petits boulots, et après, oui, j'ai été intéressée par ça. Sachant qu'à côté, j'ai toujours voulu... je rêvais de devenir animatrice, je rêvais de faire du journalisme. Je suis pas passée par le chemin normal de faire des études de journalisme pendant des années. Et Secret Story a
Donc
été pour
fait,
moi un tremplin.
Vous rêviez de passer à la télé ou vous rêviez de faire de la télé?
Alors, quelle est la nuance? Je la saisis pas totalement.
C'est-à-dire, vous rêviez d'être vue? D'être connue?
Non, j'aimais ça. Ouais. C'était une adrénaline, une passion. Ouais. Je rêvais de devenir animatrice télé. Je regardais les animatrices à la télé et c'était un rêve.
On va vous écouter, ça va vous rappeler des souvenirs dans Secret Story. Vous avez donc 21 ans.
Bon, toi, arrête de prendre tes rêves pour tes réalités. T'as pas de touche avec moi, je te le dis. Hein? Déjà, d'entrée. T'as aucune touche avec moi. Dehors, en temps normal, je te donne même pas l'heure.
Ce qui a frappé tout le monde, c'est que vous vous êtes placé immédiatement au centre du dispositif. Hein, vous avez fait un tabac. Est-ce que c'est parce que vous en aviez totalement intégré les codes, toutes les ficelles? Est-ce que parce que depuis toute petite, vous les regardiez, ces émissions-là? Est-ce que elles vous étaient tellement familières que, hop, c'est venu naturellement?
Très honnêtement, non. C'était la cinquième année, j'avais pas spécialement regardé Secret Story puisque je faisais des études et puis j'avais un papa assez rigoureux là-dessus, donc il était pas il appréciait que je sois plus concentrée sur mes études, donc je connaissais pas toutes les ficelles et très sincèrement on peut pas tout appréhender. Moi des filles qui ont fait de la télé-réalité avant moi, il y en a eu un paquet, c'est pas pour autant qu'elles ont duré. Voilà, c'est quand même un milieu très éphémère où il est très difficile de durer et d'en faire son métier. Donc non, sincèrement, j'avais pas intégré, je pouvais pas appréhender tout ce qui allait se passer. Et puis au bout d'un moment, les caméras, on les oublie. On est soi-même. Regardez, là, j'étais énervée. J'ai dit ce qu'il en était à la personne qui était à côté de moi. On ne peut pas tout anticiper.
Et en même temps, vous aviez 12 ans quand Love Story a démarré. 12
c'est
ans.
C'est vrai.
C'est-à-dire que...
C'était différent.
C'était différent.
C'était filmé 24 heures sur 24.
Oui, mais votre génération, elle a quand même
grandi. On a grandi avec.
Grandi.
Oui, c'est
Et
vrai.
Ça, ça change tout.
Peut-être qu'inconsciemment, je connaissais un petit peu les ficelles. Mais très honnêtement, j'ai pas eu le sentiment, quand j'ai intégré Secret Story, de tout maîtriser. On a le sentiment de pouvoir maîtriser les choses, mais au final, on ne sait pas ce qui va être diffusé. On ne connaît pas les montages, on ne peut pas tout maîtriser.
Et vous expliquez cette espèce de déflagration, ce buzz autour d'IM à l'époque, aujourd'hui?
Très sincèrement, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas, comme je vous l'ai dit précédemment. Des filles qui ont fait un buzz incroyable en rentrant dans Secret Story, il y en a eu peut-être une dizaine avant moi. Loana est la pionnière dans ce domaine. Je ne pouvais pas appréhender tout l'engouement qu'elle avait autour de moi.
Est-ce que vous vous êtes posé la question de... Par exemple, évidemment, vous êtes extrêmement jolie, vous étiez très à l'aise, vous étiez déjà très cash. Et en même temps, on a l'impression que vous avez fait surgir aussi une figure qu'on n'avait quasiment pas vue avant vous, en tout cas pas comme ça. Vous êtes d'origine maghrébine, vous venez des quartiers et vous assumez tout. Toute votre identité, y compris le fait que vous êtes hyper féminine. Hyper féminine, hyper sexy. Est-ce que d'un seul coup, il n'y avait pas une fille différente, un corps différent, une façon de parler différente qui surgissait sur TF1?
Peut-être que beaucoup de jeunes filles qui regardent ces programmes se sont vues en moi. Peut-être que effectivement le fait d'être maghrébine et de s'assumer à la télé, bien évidemment, vraiment en accord avec moi-même et avec mes principes et avec ma famille et avec mes origines. On peut avoir des origines et avoir un mode de vie différent. On peut avoir une culture et décider de s'assumer. C'est pas pour autant qu'on n'a pas la foi ou qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et oui, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont vues en moi et peut-être que ça peut expliquer éventuellement ce
mais
cet
tout
intérêt.
S'est emballé hein, les réseaux sociaux, les rappeurs vous ont intégré dans dans vos chansons, etc. Une espèce de notoriété hyper soudaine. Ça veut dire ensuite aussi la presse people toutes les semaines. Ça veut dire votre couple par la suite photographié de manière tout à fait pirate hein, des photos volées. Voilà, disséquées sous toutes ces coutures. Ça veut dire aussi que parfois on peut aller mal et ne plus pouvoir se cacher et même être obligé de venir à la télé pour démentir une tentative de suicide. On vous écoute à ce moment-là. Je pense que ça n'a pas été un moment très très marrant pour vous, mais c'est tellement révélateur aussi de ce système-là.
J'étais effectivement dans une période où j'avais pris un petit peu de poids, où j'ai pris, ne prenez pas l'exemple sur moi, des coupes fins, parce que je rentrais des États-Unis et que là-bas, vous avez plein de coachs sportifs, d'ailleurs avec qui j'étais, qui vous conseillent des coupes fins, des trucs. J'avais pris des coupes fins. Mon corps n'a pas supporté. C'était une journée en plus où j'avais pas mangé. J'ai fait une grosse baisse de tension. J'étais effectivement dans un hôtel puisque j'ai eu une dispute avec mon chéri, mais ce n'était pas une séparation. On a des disputes comme 99% des couples ont des disputes.
D'accord.
Ce soir-là, j'étais à l'hôtel. Je suis tombée malade. Ma maman est venue. On a été à l'hôpital. Suis restée 3 jours à l'hôpital pour baisse de tension. Il faut savoir que c'est une clinique privée, donc on reste presque autant de temps qu'on a envie d'y rester.
Donc ça veut dire
jusqu'à qu'on se sente bien.
Voilà, là, si je comprends bien, vous étiez l'émission, l'invité de l'émission que vous animez aujourd'hui.
Et que j'animais auparavant, voilà. Que je co-animais avec Mathieu Delormeau, mais j'avais arrêté à une période.
J'avais besoin de
prendre un petit peu de recul.
Donc il fallait mettre le point sur la table.
Le point sur la table, oui, parce que j'avais pas envie que cette information qui avait été relayée à mon insu et qui était en plus diffamatoire, complètement fausse, en disant que j'avais fait une tentative de suicide, il était hors de question pour moi que les jeunes filles qui me suivent et qui ont parfois me prennent pour modèle, il était hors de question que je laisse cette information être véhiculée de partout et que les jeunes filles qui puissent me prendre pour modèle puissent penser ça. Je voulais pas leur donner cet exemple-là, surtout que c'était faux. C'était important pour moi, même si d'habitude j'essaye de ne pas trop me justifier, c'est important pour moi de rétablir la vérité et qu'elles sachent que non. Oui, je suis dans un milieu et dans un système où le physique est important, où il faut faire attention. J'ai des origines malheureusement qui font que je dois d'autant plus faire attention parce que la génétique fait qu'on a tendance à prendre du poids. Et donc du coup, c'est important pour moi de rétablir la vérité.
On peut s'arrêter un instant, sur cette histoire de poids, parce que votre corps, il a été totalement scruté, disséqué par les réseaux sociaux. Vous en avez été presque dépossédé, finalement. Ouais. Vous l'avez exposé, et puis ensuite, d'autres s'en sont emparés.
C'est compliqué, on peut pas, je vous dis, parfois, ça prend une telle envergure, on peut pas tout gérer. C'est vrai qu'il y a une période où j'étais dans une télé-réalité, donc on me voyait en maillot de bain, j'avais pas de problème avec mon corps. Après, comme vous le savez, je pense, je suis devenue maman, donc comme n'importe quelle maman, oui, forcément, j'ai pris du poids. C'est pas toujours évident de reprendre sa ligne, et malheureusement, ils en ont profité, la presse people, pour me prendre à mon insu, et puis voilà, après, ça part dans des moqueries, dans des trucs.
C'est d'une violence extrême.
Oui, voilà.
Oui, c'est d'une violence extrême.
Cool. La presse people, ils sont vraiment, vraiment pas cool là-dessus.
Et c'est intéressant quand même ce que vous dites sur les corps, parce que quand on regarde les Anges, les Ch'tis, les Marseillais, on a l'impression que la télé-réalité d'aujourd'hui, elle a quand même pas mal diversifié les corps qu'elle met en scène. Alors, il y a beaucoup de muscles dans les looks, c'est très bimbo, c'est très cagole, voilà. Ça, c'est l'esthétique du truc. Mais on voit quand même des filles toutes maigres et aussi des filles très, très girondes. Peut-être plus qu'avant, non?
Oui,
ou pas?
Ouais. Je pense, mais je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait des jeunes filles très minces, des jeunes filles plus en forme. Je pense que c'est très bien d'ouvrir un petit peu ça, parce qu'il y avait une telle obsession de minceur et de physique.
Hyper tyrannique.
C'est vrai que c'était un petit peu tyrannique, parce que voilà, il fallait être mince, il fallait avoir une forte poitrine, il y avait une espèce de cliché de base de fille télé-réalité. Aujourd'hui, je trouve ça très intéressant, et Énergie 12 a un petit peu, justement, je pense que c'est eux les premiers qui ont ouvert ça, parce que ça a été les premiers à prendre, je pense à une jeune femme comme Sarah Frézou, qui est une fille qui est magnifique, mais qui a des formes et qui les assume. Mais ils ont été novateurs, Énergie 12, une fois de plus, et ils ont intégré cette jeune femme dans Les Anges.
Ouais.
Et je pense que ça a permis à plein de jeunes femmes qui ont tendance à complexer en se disant je suis peut-être pas jolie parce que j'ai des rondeurs. Je pense que ça a changé un petit peu les clichés qu'il pouvait y avoir autour de ça.
Et en revanche, en termes de classe sociale, on sent que pour le coup, c'est de plus en plus homogène par rapport à l'époque du Love. C'est-à-dire, c'est tous des jeunes issus de classes sociales très, très, très populaires. On le sent à leur langage, à leurs références, etc.
Pas toujours. Parfois, il y a des jeunes qui sont dans les Anges qui ont un certain langage parce que c'est comme ça. C'est la génération d'aujourd'hui. Ils ont un langage, ils ont leur code à eux, leur langage. Mais c'est pas pour autant qu'ils viennent d'un milieu populaire ou modeste. Ouais. Je prends l'exemple d'une jeune fille là qui est dans Les Anges, qui s'appelle Mélanie, qui est issue d'un milieu très très aisé. Et pourtant, elle a ses codes, elle a son langage. Et
alors,
elle s'intègre très
bien.
Alors,
je vous fais écouter à IM Nour un extrait des Enfants du Terril. C'est un magnifique documentaire qui a été diffusé il y a peu sur France 2. C'est Frédéric Brinquel qui l'a réalisé. Il a suivi deux frères dans une cité du Nord où vraiment les gamins sont privés de tout. L'aîné a 15 ans.
T'aimes bien les Anges?
Ah ouais, j'aime bien.
Et les Marseillais?
Ouais. Tous les télé-réalités, j'aime bien. Mais je préfère Les Anges. Je préfère Les Anges. Et Les Anges, je crois que tous les jeunes rêvent. Pas tous les jeunes, mais presque tous les jeunes rêvent d'aller dans Les Anges. Là-bas, c'est soit mannequin ou danseur. Je pourrais faire danseur aussi. Je pourrais chanter en Anges. Je sais pas trop chanter, quoi. C'est plutôt danseur si j'y vais et visiter des pays, et réaliser mon rêve d'aller dans Les Anges, quoi.
Et quand vous vous adressez à des mômes qui ont l'âge hein, que vous aviez vous-même quand vous commenciez à regarder ces émissions, vous n'avez pas envie, justement parce que vous avez vécu beaucoup de choses et vous avez une certaine lucidité là-dessus, vous n'avez pas envie aussi de leur montrer les dessous du rêve ?
Bien sûr, mais je pense que de toute manière, dans n'importe quel domaine, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est vrai que la télé-réalité, c'est pas toujours évident. Il y a des très bons côtés, ça fait rêver, c'est vrai.
Mais ça peut virer au cauchemar.
Ça peut virer au cauchemar.
Quand on se retrouve sur un plateau de télé en train de se justifier sur les disputes qu'on a avec son mec, sur comment sa maman vient vous chercher à l'hôtel.
Oui, c'est vrai. Ça peut virer au cauchemar.
Pour se retrouver en clinique, démentir une... Oui, ça peut virer au cauchemar.
Ça peut virer au cauchemar, certes, mais je peux pas cracher dans la soupe aujourd'hui. Non. Grâce à ça, grâce à la télé-réalité, je vis de ma passion. Je fais un métier que j'adore. Je suis très heureuse de faire cette émission pour les jeunes. Ça fonctionne. Il faut aussi de la télé pour les jeunes. Il faut arrêter avec ces espèces de clichés où les jeunes doivent forcément regarder des trucs Arte ou des trucs intellectuels. Ils ont besoin de rêver. Ils ont envie de rêver. Bien sûr, toujours à bon escient. Faut pas moi, j'ai pas envie que les gamins qui me regardent soient obsédés par ça et qu'ils ne fassent plus que ça. Mais oui, après leurs études, après avoir fait leurs devoirs, après avoir rempli toutes les tâches qu'ils devaient remplir et après avoir été correct et respectueux vis-à-vis de leurs parents et avoir fait tout ce que leurs parents exigeaient, oui, ils ont le droit d'avoir leur télé à eux aussi. Et oui, il n'y a pas que des bons côtés, mais dans tous les domaines, il n'y a pas que des bons côtés.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut en sortir de la télé-réalité ? Alors, je suis d'accord avec vous, tout le monde ne sort pas du lot comme vous êtes sorti du lot. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix une fois qu'on y est entré ? Est-ce qu'après, on peut revenir, faire une formation lambda, un petit boulot lambda, un métier lambda, sachant qu'aujourd'hui, la télé-réalité exige des candidats, une production phénoménale d'images sur les réseaux sociaux qui a des traces de vous absolument partout. Difficile de revenir dans la vie, dans la vraie vie.
Quand on arrive à un certain niveau de notoriété, je ne vous cache pas que c'est difficile de revenir à une vie normale. Pour parler clairement de mon exemple, aujourd'hui, c'est vrai que ce serait un petit peu compliqué. Moi, j'ai fait de la restauration pendant longtemps. Ce serait compliqué aujourd'hui d'aller travailler dans la brasserie du coin. Bah, premièrement parce qu'on me sans dénigrer quoi que ce soit, hein, j'ai pas de souci. Mais c'est vrai que ce serait compliqué parce que voilà, les paparazzi me prendraient en photo, me jugeraient.
Mais même la IM que vous êtes aujourd'hui, elle est sans cesse renvoyée à la mémoire de la IM qui était la IM d'hier.
Oui,
c'est très difficile de se défaire de ces personnages sur les réseaux sociaux.
C'est très difficile. C'est un travail de longue haleine et il faut être persévérant. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il y a beaucoup de jeunes de télé-réalité qui n'ont pas eu une notoriété incroyable et qui sont retournés à la vraie vie. Et voilà.
Vous parliez de Sarah Frézou tout à l'heure. Elle va beaucoup plus loin que vous. On sent que c'est la génération d'après. C'est-à-dire qu'elle, sur les réseaux sociaux, elle parle de son mariage, elle parle de ses crises conjugales, elle met en scène son divorce. Vous, non. Ça reste encore extrêmement léché, façon Beyoncé. Tout est beau, tout est joli. Il y a des chiots et des jolies robes sur des tapis rouges. Mais vous comprenez qu'on aille toujours plus loin dans ce cercle-là.
Je pense malheureusement qu'à un moment donné, ils sont obligés d'aller plus loin parce que c'est compliqué de se démarquer, comme vous le disiez tout à l'heure, et qu'ils ont besoin peut-être parfois de mettre un petit peu plus en avant leur vie, de donner toujours plus pour pouvoir exister encore plus. C'est vrai que moi, je viens d'une époque la télé-réalité.
Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé.
Voilà, où moi je suis un petit peu plus discrète là-dessus. Mais oui, ils ont besoin de donner plus parce que malheureusement, c'est un milieu qui est difficile et pour se démarquer, c'est pas toujours évident.
Merci, Ayem Nour. Mad Mag, Énergie 12, 17h25, Les Anges dans la foulée. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebelli.
Bonjour, Sonia De Villers, et je vois que vous avez remis votre diadème de super maman débordée, un peu comme Lynette Scavo dans Desperate Housewives.
Exactement.
Comment bien gérer sa vie quand on est un parent débordé,
vous
notamment une maman débordée.
Ayem, faire l'émission d'après.
Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, 01 45 24 7000.
Eh ben, s'il va y avoir foule au standard.